Une ville, 6 candidats. Suivez les élections municipales ailleurs avec Radio Côte-Varoise et Var Matin. Du 2 au 9 mars, découvrez les femmes et les hommes à travers leurs programmes, leurs projets et leurs envies pour hier. Alors, qui sera votre prochain maire? Une ville, 6 candidats sur Radio Côte-Varoise avec Mickaël Martinez et François Leval.
Du 2 au 9 mars sur Radio Côte-Varoise en collaboration avec Var Matin. Une ville, 6 candidats, les élections municipales ailleurs, 15 minutes par candidat, temps de parole comptabilisé en parfaite équité pour tous les candidats qui se présentent à l'élection municipale ailleurs. Je suis avec Mickaël Martinez de Var Matin, chef du bureau Var Matin hier et directeur adjoint à l'édition Var Matin pour le Grand Toulon, de Saint-Cyr au Lavandou. Bonjour Mickaël.
Bonjour François.
Bienvenue sur Radio Côte-Varoise. Nouveau candidat aujourd'hui, Jean-Pierre Girand, qui est avec nous. Jean-Pierre Girand, bonjour.
Bonjour.
Alors, Jean-Pierre Girand, maire sortant, candidat à un troisième mandat, président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Carte LR dans votre portefeuille?
Oui, ça peut être dans le portefeuille, mais ça y reste.
D'accord. Ancien député, 79 ans, professeur agrégé d'économie à la faculté d'Aix-en-Provence, pour la liste Gardons le cap pour hier. Première question, monsieur le maire, comment allez-vous?
Écoutez, très bien.
Ouais.
Vous aussi?
Ça va parfaitement.
Écoutez,
bien.
Écoutez, moi je suis en pleine forme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis candidat. C'est ma forme qui le détermine et la forme relative des autres concurrents. Donc, je me dis, j'ai toutes les raisons d'être là.
D'accord. Alors, je vais vous citer, Jean-Pierre Girand. La vie politique ne s'arrête pas dans les mois qui précèdent une échéance et la campagne, et non plus les affaires de sécurité. C'est un des thèmes que nous allons vous suggérer, n'est-ce pas, Mickaël?
La sécurité ailleurs, c'est un des thèmes qui revient dans le débat de cette campagne municipale. C'est pour vous une figure imposée, vous disiez. C'est pas forcément une figure libre, c'est-à-dire un sujet. C'est un sujet du quotidien, la sécurité.
C'est un sujet de société. Voilà. Les problèmes de sécurité touchent la totalité de la société française et donc la société maroise, et donc par définition la métropole et éventuellement hier. Et ce n'est pas parce que hier a été classée comme la commune la plus sûre du Var. C'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai lu dans Var Matin. Et la deuxième commune la plus sûre de PACA, qu'il ne faut pas être vigilant. La sécurité, c'est une possibilité de vivre sereinement s'il y a sécurité. Et donc, quelle que soit la situation relativement abritée de ma commune, nous devons faire en sorte que la sécurité soit toujours améliorée. Oui. Donc c'est une préoccupation permanente.
Permanente, vous avez recruté de nombreux policiers municipaux.
Alors, si vous voulez, nous avons déjà, là encore, je l'ai lu dans Var Matin, un effectif de police par habitant qui est le quatrième de France. Ce qui veut dire que c'est important, mais j'ai décidé de recruter encore 7 ou 8 policiers municipaux. Oui. Nous avons 600 caméras de surveillance, ce qui est extrêmement important, et nous n'hésiterons pas à en avoir davantage après avoir augmenter le centre de supervision, puisqu'il faut avoir les images, mais la capacité de les traiter. Nous avons la volonté, par exemple, d'avoir des postes de police par secteur, par secteur éventuellement sensible. Nous avons un Val-des-Rougères, à Riondé. Nous allons faire à la gare. Bon, d'autres possibilités pourront être alimentées. Nous pensons avoir un bus itinérant, parce que c'est une façon, je dirais, de parer à toute éventualité. Donc oui, la sécurité est une priorité, même si, de façon relative, comme disait l'un, quand on s'analyse, on se désole, mais quand on se compare, on se console.
Alors la sécurité dans la haute ville, le centre-ville, il y a énormément de témoignages de gens qui disent, alors énormément, on peut relativiser, mais en tout cas des gens que nous rencontrons, des échos que nous avons, de gens qui disent que le soir c'est compliqué, des femmes seules qui disent ne pas vouloir sortir le soir. Il y a la question des SDF, vous en avez régulièrement parlé. Il y a un projet porté par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui pourrait élargir les missions des policiers municipaux et vous donner de nouvelles prérogatives.
Alors, sur ce sujet-là, d'abord sur la vieille ville, je pense que vous êtes un témoin averti de la vieille ville. Avant qu'il y ait les 50 boutiques du Parcours des Arts, c'était différent. C'était glauque, c'était occupé, c'était malveillant. Aujourd'hui, il peut y avoir le soir quelques difficultés éventuelles, mais nous avons totalement assaini la procédure, notamment aussi en interdisant la circulation dans la vieille ville, qui est désormais piétonne, ce qui empêche ceux qui voudraient faire acte de délinquance d'y pénétrer. Donc les choses sont beaucoup améliorées. Il faut continuer. Vous me dites qu'il y a un projet de loi qui vise à augmenter les prérogatives de la police municipale, nous y sommes favorables. Mm-hmm. La police municipale, aujourd'hui, fait souvent un travail qui n'est pas le sien, mais elle vient suppléer les manques de la police nationale,
ouais,
les manques d'effectifs, pas les manques de compétences. Et donc, dès lors que, lorsqu'il y a un acte délictueux, elle pourra intervenir directement sans être obligée de passer par le SAS de la police nationale. Aujourd'hui, ils ne peuvent qu'avertir la police nationale qu'il y a un acte de délinquance, mais pas intervenir directement, ouais. On s'en réjouira. Donc c'est une évolution qui va dans le bon sens.
Mais vous avez régulièrement demandé des moyens supplémentaires pour la police nationale ces dernières
années. J'ai
demandé
les moyens pour les deux, je les ai obtenus d'ailleurs pour la police nationale. On a eu des augmentations significatives. Je pense que tout cela reste insuffisant. Je voyais le procureur de la République l'autre jour et nous avons convenu tous les deux que par rapport à d'autres villes comme la Seyne, dont l'image justifie qu'il y ait beaucoup de policiers, mais peut-être pas la réalité. Il est important que ce déficit soit comblé. Je continue à faire jouer les quelques relations que je peux avoir au ministère de l'Intérieur pour améliorer les choses. Mais bon, nous avons beaucoup progressé. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la parfaite entente entre police nationale et police municipale. Nous avons connu tous un moment où il y avait la guerre des polices dans cette commune. Aujourd'hui, c'est totalement harmonieux et c'est un garant d'efficacité.
D'accord. Donc la sécurité pour vous, Jean-Pierre Gérand, ça fait partie du cadre de vie des Yaroises et des Yarois.
Si vous voulez, quand je dis c'est une figure imposée, quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous ne vous demandez pas s'il doit être bien reçu, si la maison doit être propre, s'il faut éviter qu'il y ait des délinquants à l'intérieur. C'est une vie permanente. Donc si vous voulez, des concepts comme la propreté ou la sécurité font partie des obligations de la gestion quotidienne. Donc, je laissais présenter l'esprit, mais ce sont des figures imposées.
Autre sujet qui fait partie du cadre de vie, Michael Martinez, c'est l'urbanisme.
L'urbanisme, oui. On a beaucoup parlé ces dernières années dans le débat public, en conseil, de l'urbanisation de la ville. Hein, un débat porté notamment par beaucoup d'opposants, voire des associations citoyennes. En même temps, entre 2014 et 2024, un peu plus de 3200 logements qui ont été construits et une population qui est restée finalement stable, là où parfois certains de vos opposants promettaient une ville à 80 000 habitants.
Ben, ça prouve qu'ils s'étaient trompés. Alors ils se trompent de deux façons. D'abord, ils oublient qu'un maire, c'est l'agent de l'État et qu'il est d'abord là pour appliquer la loi. On ne peut pas s'en dispenser. Quand j'entends ici ou là parler d'une zone comme zone jardin plutôt constructible, il faut savoir que l'État n'acceptera jamais et que ces modifications ne sont pas possibles. Techniquement, il n'y a justement pas possible. Et puis, l'idée selon laquelle la construction de logements crée une croissance exponentielle de la population est une idée absurde. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la cohabitation devient difficile. Les grands-parents ne vivent plus avec les parents qui vivent avec les enfants, ils vivent avec les petits-enfants. Et donc chacun veut son autonomie. Là où il y avait une maison, il y aura quatre appartements. Et de la même façon, il faut savoir que 60% des couples divorcent. Ce qui veut dire que, sans augmenter la population, il y a découplement du logement.
Ouais.
C'est cela qui se produit. Cette décohabitation fait que, même quand on construit, il n'y a pas d'augmentation de la population. Vous avez raison de signaler que la population d'hier a stagné ces quelques dernières années. Simplement, elle reprend un peu, je m'en réjouis, et notamment dans les zones où nous avons construit, du point de vue scolaire.
Il y a des ouvertures de
classes. Nous avons perdu, depuis 20 ans, des dizaines et des dizaines de classes. Parce que il n'y avait pas de renouvellement. Aujourd'hui, c'est bien la démonstration que dans ces logements, ce sont des familles qui devaient émigrer dans la périphérie de hier, qui viennent les habiter. Les jeunes restent là et nous ouvrons des classes comme on l'a fait au Salins ou à l'Ouest. Ce qui veut dire que là où il y a cette création, il y a ces possibilités. Donc, je crois que nous avons été responsables. Nous n'avons pas fait plus que nous ne devions. Nous avons même fait beaucoup moins, mais suffisamment pour que nous ne soyons pas pénalisés par l'État
dans le cadre de la
et mis en carence, ce qui nous a permis de ne pas voir nos amendes multipliées par 5 ou 6 avec les conséquences pour les contribuables. Donc, au-delà de l'attitude habituelle politicienne qui consiste à dire « il a trop construit », eh bien, moi j'assume complètement et je m'en réjouis. En revanche, pour l'avenir, il faudra apaiser, et il faudra apaiser non seulement pour des raisons qui m'appartiennent, mais parce que la loi a changé. À côté de la loi SRU qui impose de construire, est apparue la loi climat et résilience avec la ZAN qui impose de ne pas construire, notamment dans les terrains.
C'est cornélien
disponibles.
Un peu tout ça. C'est cornélien.
Ouais, c'est cornélien. Et donc, on nous dit, allez construire la ville sur la ville. C'est ça. Là, il y a une difficulté. et j'y reviendrai quand vous me demanderez la première mesure que je prendrai. Ouais.
Alors la ZAN, c'est la loi zéro artificialisation nette.
Absolument. Voilà.
Et donc vous parlez d'une ville à 60 000 habitants, hein, c'est ça
Ça me paraît la tendance asymptotique pour une ville comme hier. Oh, je ne vais pas vous dire 58 000, 62 000, mais c'est une ville autour de 60 000 habitants. Parce qu'il faut bien considérer que même si son territoire est extrêmement vaste, 13 300 hectares, c'est une commune avec les zones agricoles, les zones naturelles, les fleuves, la submersion marine, les servitudes de l'aéroport, qui est complètement contrainte. Ouais. Et donc, à la fois par goût, mais aussi par obligation, sa population doit être maîtrisée.
Et il reste justement un espace, le plus gros espace où il est possible de construire, hein, dans le cadre du plan local d'urbanisme, c'est aux Rougières. Donc
c'est
aux Rougières, Rougières,
bien sûr.
Entre
c'est
la piscine et le collège Gustave Roux.
Voilà. C'est là que je dis que ceux qui disent on va en faire un jardin, c'est une plaisanterie, puisque l'État s'y opposera. Mm-hmm. Et donc toute modification du PLU en la matière sera annulée. Et il faut quand même savoir qu'on n'a pas la liberté. Ouais. Quand on présente une modification du PLU, il y a les personnes publiques associées, c'est-à-dire l'État et tous ses services, qui disent « Comment répondez-vous aux obligations de la loi ?» Si vous ne répondez pas, le PLU n'est pas adopté, et donc vous restez dans la situation antérieure.
Le projet actuellement, ça serait 500 logements, c'est ça ?
Voilà. Moi, si vous voulez, bon, j'ai pensé qu'il fallait effectivement apaiser. C'est un projet autour de 500 logements. Nous allons faire une réservation foncière de 4 hectares pour la commune, de façon à anticiper l'avenir. On aura peut-être besoin un jour de terrain pour un terrain de sport,
une école,
un lycée, un collège,
un autre aménagement,
un service public. Mmh. Donc, comme il n'y a rien d'autre dans la commune, il faut prévoir l'avenir. Et puis pour le reste, si vous voulez, c'est un espace très, très libre, avec une emprise très limitée, à 10 ou 12%, des hauteurs limitées, à 3 étages. Je rappelle simplement que dans la ZAC de la Crestade, qui a été classée éco-quartier, labellisée récemment, c'est-à-dire avec tous les labels qui conviennent, sur une dizaine d'hectares, il y a 440 logements. Faire la même chose sur 30 hectares, ça veut dire que ce sera quand même très ouvert très disponible.
Mm-hmm. L'environnement, on en parle
alors
avec
j'ajoute, si vous permettez.
Allez-y.
C'est que ceux qui
le
disent...
temps passe, hein, Jean-Pierre Giraud.
Non, mais ceux qui disent les logements sociaux, qu'ils pensent à vous, qu'ils pensent à moi, qu'ils pensent à mes enfants, qu'ils pensent à ces jeunes. Il faut bien quand même qu'ils vivent quelque part. Ce sont des logements qui sont à prix abordable dans un territoire où le foncier est très cher. Il faut les loger. C'est un devoir social, c'est un devoir humain. Et ceux qui sont irresponsables au point de dire il faut arrêter la construction des logements, eh bien, je leur dis, où vous allez mettre ceux qui sont dans le besoin.
Qui ont besoin.
On va parler d'environnement, c'est également un sujet que vous prenez à bras le corps, le sujet du tombolo, hein, ici, ailleurs, Jean-Pierre Girand.
Bah, je le prends d'autant plus à bras le corps que c'est quand même le sujet qui a fondé ma vie. Moi j'ai passé 15 à 20 ans sur le concept d'environnement, j'étais le porte-parole du groupe RPR et UMP, l'Assemblée nationale, sur l'environnement. Je suis l'auteur d'une loi qui a complètement modifié les parcs nationaux et qui a habitué à ce qu'on puisse respecter ce qu'on avait envie de partager, et je me sens responsable du maintien d'un territoire. La nature où Dieu nous a légué le tombolo, il faut le garder pour des raisons de sécurité des chiens, pour des raisons de biodiversité, pour toutes les raisons du monde. Donc moi j'ai fait faire, dès que j'avais été élu, des études par un cabinet international avec des solutions alternatives. Ils ont retenu un brise-lames immergé, bon, très bien. Il se trouve que les atermoiements du ministère de l'Environnement et de son service spécial ont fait perdre beaucoup de temps.
Tant beaucoup d'années même.
Beaucoup d'années. Et c'est vraiment désespérant, parce que c'est une approche doctrinaire. J'ai rencontré récemment sur le site, et à l'initiative du préfet, le préfet et la ministre de l'écologie, qui partagent, je peux le dire, à 100% la volonté qui est la mienne. Nous allons faire, et nous avons déjà diligenté à TPM, quelques petites études complémentaires, histoire que chacun sorte par le haut sur le sujet, mais j'espère qu'au terme de cela, il y aura le minimum de courage politique du futur ministre d'avancer et de résoudre le problème. Je tiens à vous rappeler, je ne veux pas être accablant pour l'intéresser, que Christophe Béchu, ministre de l'écologie, m'a dit en face et devant témoin, m'a écrit, fais-moi ta demande et tu m'écris ma réponse. C'est dire qu'il était d'accord.
Oui.
C'est ce que j'ai fait. Mais sans résultat, il a été repris en main par des services doctrinaires. Je le regrette parce que nous sommes tous comptables devant l'Éternel de cela. Vous imaginez ce que veut dire la suppression du tombolo ? Du premier puis du second, puisque le second sera attaqué. Il suffit de voir les tempêtes du moment. C'est dramatique. Moi, ce n'est pas un problème de maire, là. C'est un problème, honnêtement, d'image, de responsabilité vis-à-vis d'un territoire. Quand vous regardez la carte de France, vous voyez ce bras, mesdemoiselles, qui s'allonge vers...
Alors Jean-Pierre Girand s'adresse à nos stagiaires journalistes.
Oui, parce qu'elles sont là. Mais ce bras est très particulier. Vous voulez qu'il soit coupé ?
Double tombolo.
C'est une plaisanterie. C'est le patrimoine de l'humanité.
Michael ?
L'une de vos priorités aussi, c'est l'opération Grand Site sur le littoral des Vieux Salins jusqu'à la presqu'île de Gien, l'Almanar.
Complètement.
Là, avec une maison de l'environnement aussi.
Alors, il y a deux choses. D'abord, l'opération Grand Site que nous avons relancée, pour laquelle nous franchissons des étapes, c'est un très long processus.
Très, très rapidement. Le temps file très, très rapidement. Allez-y, Jean-Pierre Girand.
Oui, mais bon, c'est comme ça, mais c'est important.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, la maison Grand Site va être réalisée dans de brefs délais. On y travaille avec TPM. Et ça sera un élément de médiation pour les problèmes d'environnement et de mise en valeur des salins. Et puis, en même temps, nous avons acheté une maison, la maison Ducrot à la Crestade, qui va maintenant regrouper toutes les associations d'environnement, qui aura contigu 5000 m² de jardins partagés. Il sera le cœur de la politique d'environnement de la commune. Donc oui, une priorité.
En préparant ces émissions, Jean-Pierre Girand, nous sommes allés poser quelques questions dans les rues de Hyères, aux Hyéroises et aux Hyérois. La ville se meurt à partir de samedi, 13h-14h. Hyères se meurt au niveau des commerces, de l'animation, centre-ville. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens qui
Je trouve que le terme est très excessif, parce que
Même les commerçants, il y aurait une tendance à nous dire aussi ce genre de...
De nombreux candidats le disent aussi, plusieurs en tout cas.
Ouais. Mais on l'a entendu dans la rue. Mais je veux dire, il y a toujours une volonté quand même de caricaturer l'expression. Mm-hmm. Je souhaite que les commerçants fassent en sorte que les choses ne meurent pas, puisque... Moi, je ne suis pas commerçant. Le maire, il dresse un cadre de vie à l'intérieur duquel les acteurs économiques doivent jouer. J'observe, par exemple, que le dimanche matin, désormais, les halles que nous avons créées sont ouvertes. Et ce n'est pas le hasard. Ce sont des entrepreneurs innovants. Mm-hmm. J'espère qu'autour, cela va faire tache d'huile.
C'est presque une exception en centre-ville. Hein,
oui, mais enfin, c'est les halles ouvertes toujours dimanche, par une exception. En tous les cas, c'est un signal.
Oui, c'est un début.
Mais il y a beaucoup de communes qui sont dans ce cas. Le dimanche matin, allez-vous promener ailleurs, vous aurez le même résultat. C'est plus actif au port, le dimanche matin. Nous avons une commune qui est très étendue,
vaste,
et très dispersée. Et c'est vrai que le dimanche matin, bon, je le vois, c'est le moment où on va prendre le café sur le port, beaucoup plus qu'en centre-ville.
Il y a le marché.
Voilà, c'est difficile. Mais j'appelle de mes voeux le fait que les commerçants soient plus actifs. Il y a une nouvelle association de commerçants très dynamique. Moi, je suis prêt à militer avec eux pour changer la donne.
Très bien. Jean-Pierre Girand, il vous reste, on va dire, 1 minute 50 de temps pour vous exprimer alors sur un sujet très, très rapide qui vous tient à cœur, on le sait. C'est le sujet de la santé. Vous aurez donc 1 minute pour vous exprimer sur la première chose que vous ferez si vous êtes reconduit à votre poste de maire, votre fonction de maire. La santé. On a connu des périodes difficiles ailleurs.
Le plus beau moment de ma vie publique a été de sauver Sainte-Marguerite. Je le dis
avec émotion.
Voilà. Parce que ça a été un combat collectif avec les médecins.
Et les salariés aussi, que vous avez reçus.
Et c'est le moment où vous avez l'impression d'être utile. Tout a été fait. Et au-delà.
Voilà. Je peux pas donner avec l'ancien préfet notamment. Voilà.
Mais nous avons réussi. Préfet. Et j'en suis extrêmement heureux.
Clinique Sainte-Marguerite qui a été repris par le groupe Almaviva et rebaptisé.
Qui est très
positif,
ça s'appelle l'Espérance. Clinique l'Espérance. Son nom. Ouais. Tous les hôpitaux d'ailleurs sont en plein investissement. Tous. Je peux vous le dire, Pompodiana, Léon Bérard, San Salvador, l'hôpital, etc. Donc ça va bien. Il faut simplement, et je le fais, créer des maisons de santé. Parce que la profession libérale n'est plus ce qu'elle était. Et elle veut se regrouper. Et donc nous avons une maison de santé que l'on construit actuellement à l'EGAD, village Jean-Solin. On va en faire une à la gare, dans les locaux de la gare, mais d'accord, la SNCF. Une autre à la CAPTE, dans les locaux de la mairie. Donc c'est tout cela qui va compter.
Très bien. 50 secondes pour conclure, monsieur le maire.
Pour conclure, si vous voulez, c'est que la gestion...
La première décision que vous...
Oui, mais la gestion d'une commune, c'est pas une facilité, c'est pas un loisir, c'est une obligation. Et il y a une hiérarchie. D'abord la gestion, ensuite l'ambition. Vous savez, on peut passer de Caribe en Silla, ou de la nuit à la lumière. Si demain on dit oui à toutes les demandes, on déstabilisera le budget. Comme je l'avais connu quand j'ai pris mon mandat, l'épargne nette était quasi négative. Aujourd'hui, on a des marges, c'est parce qu'on a été rigoureux. Et puis une ambition, si nous avons des expositions exceptionnelles, c'est parce que nous tenons le haut du pavé. Warhol, Dufy, Braque et les autres. Si demain il y a l'exposition du Schmoll, les prêteurs me diront « Mais c'était qui la dernière exposition ?» Et nous n'aurons plus de prêteurs. Donc soyons exigeants et ambitieux.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Girand d'avoir été avec nous sur Radio Côte-Varoise. Mickaël, on se retrouve très vite pour une nouvelle candidate ou un nouveau candidat à la mairie de Hyères pour les prochaines élections municipales. À bientôt.
À bientôt.